Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je suis très très heureux d'être là avec vous et de chanter certains cantiques que je ne connaissais pas mais qui sont d'une profondeur et c'est tellement doux pour l'âme. Je suis persuadé que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Et merci de m'accueillir une fois encore. Je suis Arnold Daya, je travaille pour Portes Ouvertes et je sais que vous connaissez Portes Ouvertes. Je suis le responsable en Ile-de-France, nouvellement responsable de l'activité aux Antilles en Guyane française. Je me réjouis de servir le Seigneur dans ce ministère. Je vois ma chère collègue Christelle, merci pour ta fidélité, merci pour tes voyages, merci pour ton engagement, ton intérêt et ton amour pour l'Église persécutée. Merci à vous, les responsables, Philippe, Joël et Pierre-Yves. Merci beaucoup, merci à chacun. Donc, comme vous connaissez Portes Ouvertes, je vais peut-être me présenter moi, le bonhomme. Je m'appelle Arnold, je suis marié, j'ai des enfants, j'aime introduire mon épouse comme ma belle colombe des térébintes lointains, je vous en parlais hier soir, qui s'appelle Glody. Nous avons deux beaux diamants, donc mon aîné, ma fille Yaël, qui a 7 ans et demi, et Aiden, mon garçon, qui aura 6 ans, là, dans quelques jours. On habite dans la Marne, donc c'était un petit voyage pour venir ici, mais tout s'est bien passé. Voilà. Et j'ai passé la nuit, eh bien, chez Pierre-Yves et Elisabeth. Voilà, c'est la deuxième année que je vous visite. Quand je suis venu l'année dernière, est-ce que vous souvenez du nombre de chrétiens persécutés qu'il y avait l'année dernière, avant d'avoir les nouveaux résultats? Vous vous en souvenez? Tout le monde connaît Portes Ouvertes?
Oui.
Eh bien, l'année dernière, il y avait 365 millions. C'est énorme. Et là, cette année, il y a 15 millions de plus, donc 380 millions. Et comme j'aime visualiser eh bien, ce chiffre important, 380 millions, il faut imaginer la taille de la population française en 2025. On est à 68 millions. Il faut multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, par 5,5 pour rapprocher les 380 millions et c'est énorme. Donc il faut visualiser 5 territoires français accolés avec 5 populations françaises et tous persécutés en raison de leur identification à la personne de Jésus-Christ, en raison de leur foi chrétienne qui n'est pas différente de la tienne ni de la mienne, notre foi commune en Jésus-Christ pour laquelle nos frères et sœurs payent un prix fort. C'est un chrétien sur les 8 milliards que nous sommes dans ce monde qui est persécuté et c'est 15 chrétiens en moyenne qui sont tués par jour. Et c'est un chiffre qui évolue et c'est préoccupant. Vous connaissez cette super carte, je pense que vous en avez une ici. Donc c'est l'index mondial de persécution, c'est le classement des 50 premiers pays où il est le plus difficile d'exprimer sa foi chrétienne. Donc tout ce que vous voyez en rouge vif, ce sont ces endroits où la persécution est extrême, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas être chrétien dans ces endroits, ça vous expose à la mort au quotidien. Pays numéro 1, c'est la Corée du Nord, depuis 22 ans, 23 même, à part en 2021 où les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Et ils avaient des listes, des contacts, des adresses de chrétiens, ils ont fait du porte-à-porte et ils en ont tué beaucoup. Mais c'est la Corée du Nord, donc depuis 23 ans, là. Tout ce que vous voyez en orange sont ces endroits où la persécution n'est pas extrême, mais elle est très forte. Vous subissez des discriminations majeures quotidiennes. Ce qui est en jaune sont ces endroits où la persécution n'est ni extrême ni très forte, mais elle est présente, elle est relativement forte. Vous avez des discriminations mineures quotidiennes. Et ce qui est en blanc sont ces endroits où il n'y a pas de persécution notoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas de persécution. L'année dernière, encore, il y a eu une église dans le premier arrondissement qui a été vandalisée. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Ou alors, quelque chose qui a vraiment marqué la France, c'était la décapitation du père Hamel en 2014 à Rouen. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, il y a quand même des cas de persécution. Mais la France n'est pas considérée comme un pays persécuté, si bien que la France n'est pas trop loin eh bien, dans notre travail de méthodologie. Pour placer les pays, bien sûr, sur l'index. Alors, ça fait 31 ans qu'on établit cet index que l'on présente premièrement aux chrétiens pour savoir ce qui se passe par rapport à la persécution des chrétiens, nos frères et sœurs dans notre monde. On s'adresse aussi aux politiques parce que ce sont les garants de la sécurité mondiale, ce sont ceux qui peuvent défendre les droits de l'homme. Et on s'adresse à la presse pour leur dire il s'agit de vraies vies humaines faites de chair et de sang. Sont des vraies personnes qui payent un prix énorme. Il faut parler de ça. On a reçu une fois un pasteur iranien qui disait « Mais écoutez, parlez à vos députés. » Ce qu'il y a des journalistes qui reçoivent des chèques énormes pour fermer la bouche. Je vais vous montrer eh bien, une évolution de cette carte depuis 30 ans en arrière. Regardez les dates qui vont défiler là en bas à droite et regardez les couleurs qui vont varier du blanc au jaune à l'orange, au rouge. Regardez bien la situation en Afrique subsaharienne, en Amérique latine. D'ailleurs, je me rends quelque part ici dans un mois précisément. Regardez ce qui se passe en Russie, en Chine. Regardez. Et regardez les dates. Voilà l'état de la persécution des chrétiens en 2025. Et c'est préoccupant. J'espère que vous avez... Alors, je vais repasser ça, comme ça vous allez voir. Vous avez vu eh bien, l'état eh bien, de l'Afrique subsaharienne. En quelques années, il y a eu une explosion. Aujourd'hui, c'est carrément l'épicentre de la persécution mondiale, où beaucoup de djihadistes... Voilà, le mécanisme de persécution le plus important, c'est l'extrémisme islamique. Il n'est pas question de parler en mal de mon ami musulman. Non, le problème, c'est l'idéologie islamique, qui est un véritable problème dans notre monde. Regardez aussi la situation qui se dégrade en Amérique latine. Ça marche plus. Ah oui, voilà. Là, vous verrez. Alors, je reviens en arrière. Hop, et je... Voilà, regardez. La Chine qui change de couleur. À un moment donné, la Russie qui s'allume, qui va s'éteindre. Voilà ce que ça donne en 2025 et on a en Afrique subsaharienne la persécution qui atteint jusqu'au Mozambique et la situation est très préoccupante. En voyant toutes ces couleurs, on pourrait se dire, et nous on est là, en voyant toutes ces couleurs, on pourrait se dire, mais mince, l'avenir de l'Église est très sombre. On ne sait pas où va notre monde et on ne connaît pas l'avenir de l'Église, on ne connaît pas l'avenir de l'Église en France. Et pourtant, on a quelque chose de commun, c'est notre très sainte foi. Et donc je crois qu'il y a vraiment des leçons à tirer par rapport à ce que je vais vous montrer de l'expérience profonde des chrétiens persécutés. Je vais tout de suite commencer par vous montrer une vidéo. Alors l'année dernière, j'ai présenté une seule vidéo, j'en ai un petit peu plus, mais je vais essayer de gérer en fonction du temps pour ne pas peut-être trop vous déstabiliser avec ces choses qui des fois nous déstabilisent aussi. Hein. Mais on se remet à Dieu.
25 février 2024, Burkina Faso. 15 chrétiens sont tués pendant la messe dans une attaque contre l'église dès chaque année au nord du pays. 2 mai 2024, Algérie. Youssef Ouaraman, le vice-président de l'église protestante d'Algérie, est condamné à un an de prison ferme pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. 18 septembre 2024, Pakistan. La chrétienne Shagufta Kiran est condamnée à mort pour blasphème. Ces quelques faits de persécution ne sont qu'un fragment de ce que vivent de très nombreux chrétiens. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une réalité dramatique, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi.
Como você está persistindo em falar sempre de Jesus, nós então vamos mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Foram encostar naquela árvore e começaram a pregar com os joelhos. Eu, quando estava crucificado, nem para fazer assim, para me defender, eu estava.
Actuellement, plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi dans 78 pays du monde. Cela représente un chrétien sur sept. L'année passée, 4 476 chrétiens ont été tués en raison de leur foi.
Il y avait une liste de tous les chrétiens. Donc, ils passaient maison par maison, ils ont suivi au moins 15 maisons. Ils ont tué 5 et ils ont parti avec les 10 autres.
7679 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. Chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives.
Bondi,
En 2025, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés? Cette année, on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Pakistan, du Nigeria, de l'Érythrée, du Soudan, de la Libye et enfin, dans le top 3, du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord.
이렇게 성경책을 봤을 때 충격이었죠. 성경이 우리 집에 있다는 걸 알게 되면 100% 정치범 수용소에 가요. 그리고 너무너무 무서운 거예요.
Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité, d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Mais ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens à travers le monde, qui continuent à tenir ferme, même face aux plus grandes violences, et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous publions cet index.
Uma organização que me ajudou foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque
আমি যারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বাজে কথা বলে যারা আমাকে ভালোবাসে না ঘৃণা করে তাদের আমি ক্ষমা করে দিই
रॉयले यति हुँदै हुँदा पनि समस्या सतावटहरूबाट भएर जाँदै गर्नुपर्दा पनि मैले प्रब्लम नत्यागेको कारण चाहिँ परमेश्वरमा अनन्त जीवन छ म प्रब्लम कहिले पनि त्याग्न सक्दिनँ
Ça donne en zoomant sur cette carte que je vous ai montrée. Voilà ce que ça donne dans l'expérience humaine. Et cette vidéo, on l'a faite non seulement pour vous la présenter, mais pour se tourner aussi vers les politiques et la presse et dire c'est très sérieux. C'est pas juste une belle vidéo comme ça, c'est des témoignages de millions et de millions de personnes. Et notre but, eh bien, c'est de les entourer. L'ADN profond de Portes Ouvertes, eh bien, c'est d'aller vers nos frères et sœurs qui sont persécutés, de les entourer, de les équiper, de les fortifier pour rester sel et lumière là, dans leur village, dans leur ville, dans leur communauté. Rester sel et lumière. On pourrait demander au Seigneur, aujourd'hui, eh bien, la violence a explosé de manière folle au Nigeria. Depuis 10 années consécutives, le sang des martyrs chrétiens coule le plus au monde, dans le nord de ce pays. Là, il y a quelques semaines encore, 218 chrétiens qui ont été tués lors d'une attaque consécutive. 7 jours d'attaque, et il y a eu... Non, pardon, en une semaine, il y a eu 6 attaques. Presque chaque jour. C'est terrible. Et pourtant, l'Église, là, dans ces pays, en Corée du Nord, au Nigeria, en Afghanistan, ce qu'ils demandent, c'est non seulement de prier pour eux, mais de prier avec eux afin qu'ils puissent éclairer leur village, leur communauté et de saler leur pays par le sel de l'Évangile. Ils ne demandent pas forcément à trouver un asile ailleurs, mais d'être la lumière de Christ dans ces endroits-là. Nous sommes dans ce monde en terrain ennemi et il est important de ne pas baisser les armes. Vous voyez ce dont je parle. Voilà, les frères et sœurs veulent rester sel et lumière, donc on met en place des projets, d'ailleurs votre église est très fidèle, merci pour votre soutien, très, très respectable. Donc on met en place des projets pour te souvenir, t'as commencé par de la contrebande de Bible en Europe de l'Est, que frère André a commencé en 1955, on va sur le terrain donc pour assurer une présence à cause de la force de la persécution qui devient de plus en plus brutale. Les chrétiens se sentent des fois bien isolés et lorsqu'on va les voir, Christelle, je ne sais pas si tu es partie ou si tu pars bientôt. Voilà, bientôt, j'y vais aussi. Ils se sentent encouragés. Ils se disent, mais en fait, vous prenez au sérieux ce qui se passe. On fait du plaidoyer. Donc, je dis depuis tout à l'heure qu'on s'adresse aux politiques. Plaidoyer, on plaide leur cause. On les aide eh bien, à connaître leurs droits. Parce qu'un des processus de la persécution, c'est la désinformation. Vous vous souvenez, par exemple, quand le coronavirus est arrivé en France et que l'église de Mulhouse a été ciblée en disant, mais en fait, ce sont ces évangélistes, des fois, ils disent, et parfois, ils ne savent pas, sont ces évangélistes. Je me souviens, par exemple, bon, voilà, sans parler de sans vouloir entrer trop en détail là, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de désinformation en disant que c'est arrivé par l'église de Mulhouse et pourtant ben, c'était arrivé bien avant. Et même cette semaine-là ou dans les semaines qui ont suivi, il y avait, vous savez que le président était par là-bas, donc il y avait aussi un rassemblement, mais le processus, un des processus de la persécution, c'est la désinformation et on apprend, on aide les chrétiens dans ces pays-là à connaître leurs droits pour ne pas, lorsqu'ils sont arrêtés arbitrairement, pour avoir des bases solides juridiques, pour dire, mais en fait, vous m'arrêtez, mais voilà, avec des faux prétextes et des choses qui ne sont pas légales. On apporte des formations sur place. Alors, vous savez, lorsque vous subissez une attaque et que vous devez partir en courant, vous allez des fois dans un village limitrophe ou dans un pays limitrophe, et des fois, vous allez dans un endroit où vous ne connaissez pas la langue. Là, dans mon église, on a des Nigérians qui sont arrivés et ils ne connaissaient aucun mot de français. Comment vivre dans un tel pays? Comment même? Tout ce qu'on a, c'est notre foi. On ne peut pas travailler, peut-être parce qu'on ne connaît pas la langue, etc. Et on les entoure pour les aider, leur apporter des formations, pour les aider à survivre ou à vivre dans ces pays-là. Des soins post-traumatiques également, parce que lorsque vous avez vu votre père décapité sous vos yeux, votre mère abusée devant vous, votre sœur enlevée, un accompagnement psychologique est vraiment important. Avec un accompagnement spirituel, bien sûr, mais de la relation d'aide. C'est tellement précieux, parce que les traumas sont des fois très lourds. Et donc, on met en place aussi des aides, des projets de développement socio-économique pour que les chrétiens puissent subsister, être autonomes et continuer de vivre malgré eh bien, la force de la persécution. Le magazine de Portes Ouvertes, je sais qu'il y a plusieurs qui sont abonnés, mais s'il y en a qui ne reçoivent pas, moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour que vous ayez des nouvelles des chrétiens persécutés, pour que vous puissiez vous identifier à eux, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont persécutés pour cela, mais en fait nous le sommes aussi, et nous ne connaissons pas l'avenir de l'Église. Mais on peut tirer des leçons de leurs expériences, et vous avez un calendrier de prière qui vous permet d'intercéder de manière précise et ciblée pour les chrétiens persécutés. Je vais passer à mon message, qui consiste à tenir ferme dans la tempête. Des tempêtes, on en a beaucoup, d'ailleurs l'église persécutée nous le montre, on en a aussi peut-être voilà, au travail, ah oh, tiens Pierre-Yves, oh, faut pas l'écouter. Oh c'est la voix de la sagesse, avec une pointe d'ironie, il ne faut pas l'écouter, je ne sais pas, ça vous arrive des fois, non? En tant que chrétien là, simplement dans votre travail, même si vous n'évangélisez pas, mais votre vie qui est tout un témoignage, fait que des fois vous êtes méprisé, rejeté, moqué, parfois même attaqué, vous arrivez le matin, vous avez vos pneus crevés, pourquoi? Eh bien, de la lumière qui brille en vous. Et je vais parler justement eh bien, de ce message qui va être peut-être, voilà, qui va sortir peut-être de l'ordinaire dans nos cultes. Voilà, je vais aborder eh bien, une des réalités eh bien, qui se cache derrière les tempêtes qui viennent pour déstabiliser l'Église. Et je voudrais citer eh bien, cette femme qui a écrit eh bien, dans un de ses livres, « Parfois le Seigneur eh bien, apaise la tempête ». Mais parfois, il laisse la tempête faire rage et il apaise son enfant. Et c'est une grande consolation, alléluia, que d'avoir, et je l'entendais dans une prière, que le Seigneur est toujours avec nous. Mais derrière toutes ces tempêtes, comme vous avez vu dans cette vidéo, derrière eh bien, ben, les nationalistes ultra-conservateurs hindous, derrière Boko Haram, derrière les paramilitaires de l'Amérique latine, derrière les ADF en République démocratique du Congo, derrière la MDI, la Défense musulmane internationale, derrière les Seleka, derrière Al-Shabaab, derrière Al-Qaïda, derrière Daesh, derrière eh bien, toutes ces tempêtes qui souffrent contre l'Église de Dieu, je voudrais eh bien, vous encourager à vous souvenir qu'il y a un conflit. un conflit qui existe depuis la nuit des temps, un conflit dans lequel nous entrons sans qu'il ne soit question de notre responsabilité au premier abord. Mais parce que nous avons choisi de nous ranger fidèlement derrière le vivant, derrière notre Seigneur, alors nous entrons dans un conflit qui oppose deux entités, deux royaumes. Le royaume des ténèbres qui s'oppose au royaume de Dieu, Satan qui s'oppose à Jésus, Satan qui s'oppose à Jésus depuis la nuit des temps, qui s'est opposé au plan de Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme de manger de tous les arbres, et bien du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas en manger. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on sait d'après le récit biblique que Adam a vécu 930 ans, mais Dieu avait dit le jour, pas plus tard, ce jour-là, tu mourras. Et on sait qu'il a été coupé de sa communion avec Dieu depuis le début à cause du mensonge de Satan, Satan qui s'oppose à Dieu depuis la nuit des temps. Satan qui s'est opposé à toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Satan qui s'est opposé à l'œuvre de Dieu dans la vie de Job. Et vous savez ce qui s'est passé. Satan qui s'est opposé à Jésus dans le désert et qui s'oppose à l'Église. Et ça me faisait penser à ce passage de l'Apocalypse. Il y eut une guerre dans le ciel, Apocalypse 12. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset suivant. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Frères et sœurs, qui sont ceux qui aujourd'hui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ? Eh bien, c'est vous et moi. Et donc, il y a une guerre, il y a un conflit qui est là. Je vous donne un exemple. Lorsque nous n'étions pas croyants, c'est comme si une violente tempête soufflait comme ça contre nous. Un petit peu le genre de tempête qu'on a vu un peu les derniers mois aux États-Unis. Une violente tempête qui souffle et qui vous pousse vers la destruction, vers l'enfer. Puis Dieu vous donne un pouvoir moral qui vous permet de faire demi-tour et maintenant de marcher vers Dieu. Et la tempête, en fait, vous mangez la tempête. Comme ça. Vous arrivez à voir un petit peu l'image? Il y a un conflit qui est là. J'étais au Cameroun, le mois dernier, et je parle de l'homme qui est le champ de bataille, parce que Dieu tend sa main salvatrice à l'homme pour le sauver et le faire asseoir pour toujours avec lui en sa présence, et l'ennemi cherche à détruire l'homme, voulant blesser le cœur de Dieu. Et donc, j'étais au Cameroun pour vous montrer, aller un peu plus loin dans le conflit. Et j'ai entendu le témoignage d'un gars de Boko Haram qui s'est converti. Et il disait quelque chose dans son témoignage, il disait que lorsqu'il devait attaquer les villages chrétiens, ils étaient en troupes organisées, ils étaient 200, 300. Et les entraînements étaient à 22h quand il y avait la lune. Et de nuit... Après les entraînements, ils allaient comme ça dans les villages. Et quand ils arrivaient, ils criaient « Allah, Allah !» Et les chrétiens sortaient de leur maison pour courir vers les montagnes. On les a vues, ces montagnes, parce que j'étais à 35 km de la zone des combats, dans l'extrême nord du Cameroun, qui est proche de l'état de Borno, où Boko Haram a un fief. Et donc, ils crient et les chrétiens sortent de leur maison, ils fuient vers les montagnes et ils ouvrent le feu. Comme ça, en tirant comme sur des bêtes. Et il disait qu'il ne tirait pas vers le haut, mais vers le bas, pour que vous ne mouriez pas tout de suite. Et donc, il venait à vous, et nos chères mamans, elles étaient prises et données en esclaves, à vie, aux combattants, aux domestiques. Nos chères épouses, nos chères sœurs étaient prises et données en mariage forcé aux djihadistes. Les enfants étaient recrutés pour être endoctrinés dans le salafisme ou le wahhabisme saoudien. Et les hommes étaient littéralement égorgés. Mais ils avaient la chance de survivre s'ils dénonçaient l'adresse de l'église ou l'adresse du pasteur. Et parfois même en dénonçant, ils y passaient. Et ils disaient qu'avant d'aller faire ces combats, on leur donnait une boisson spirituelle sur laquelle il était fait des incantations, des pratiques occultes. Et ils disaient que lorsqu'ils la buvaient, c'est comme si tout switchait. Il avait un profond désir d'accomplir le mal. Et il disait que pendant ses entraînements... j'espère que je ne vous déstabilise pas. Je ne veux pas que vous me lapidiez après. J'ai votre confiance. Et il disait qu'il devait répéter des sourates du Coran pour qu'apparaissent 4 et des fois 5 personnes. Ils avaient une apparence humaine, mais c'était des démons. Et il les séduisait par des charmes en leur disant... Prenez courage, allez combattre les infidèles, les koufars ou les kafirs, les infidèles, et c'est souvent les chrétiens qui sont appelés les infidèles. Et donc, il disait, voilà, ça va être un peu bizarre, je ne sais pas comment filtrer ça, mais je vous le dis quand même, et il disait que il fallait les tuer, il fallait avec un récipient récupérer cette substance rouge, et il fallait la consommer pour ne pas que le fantôme de ce kafir apparaissent. Et s'ils n'avaient pas assez de courage pour la consommer entièrement, il fallait qu'au moins avec leurs doigts qu'ils consomment cela, ce qui est une abomination totale. Dieu a dit à Moïse de ne pas consommer cela parce que l'âme d'un homme se trouve dans son sang. Et là, cette idéologie diabolique dit, mais en fait, il faut consommer cela, sinon vous serez tourmentés. Vous voyez le conflit qui est là? Il y a un conflit spirituel qui est là. Qui a regardé la passion du Christ? Moi, j'aime regarder ça, je pleure, ma femme ne supporte pas. Mais est-ce qu'il y a des braves qui ont regardé la passion du Christ ici? Est-ce que vous vous souvenez de quand Jésus était sur la croix et que les sacrificateurs, les chefs religieux lui disaient « Tu disais que tu allais détruire le temple et que tu allais le relever en 3 jours, mais tu n'arrives même pas à descendre de ta croix. » Et vous vous souvenez qui passait derrière les souffrants sacrificateurs avec la cape noire dans le film? Eh bien, c'était Satan. Il y a un vrai conflit invisible, mais très réel, dans notre monde présent. Et ça me rappelle ce que Paul disait. Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans notre monde... qui veulent contrôler et régir notre monde contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà ce qui se cache derrière toutes ces tempêtes. Je sais que vous le savez, et c'est important de nous le rappeler, afin que, dans le bon combat de la foi, que l'on comprenne bien où est la cible. Ce n'est pas forcément ce gars de Boko Haram qu'il me faut haïr, que... Jésus nous dit, mais en fait, aimez vos ennemis. T'as envie de dire, mais je te demande pardon. Comment tu veux que j'aime celui qui vient de décapiter mon père devant moi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ouh là là. C'est radical, hein, moi. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soit on est en accord avec une telle parole, quoique radicale, ou alors il faut déchirer cette page de notre Bible et après batailler avec notre conscience. Pardon, je ne veux pas être lapidé, mais je continue. Qui se mange les coups? Les chrétiens. Voilà, là, devant Dieu. Et ça me rappelle ce qu'est être chrétien. Être chrétien, c'est être un témoin de Christ. Nous sommes des témoins de Christ. Amen ou pas amen, c'est vrai. Hein? Nous sommes des témoins de Christ. Et être un témoin, c'est être un martyr, un martouros en grec. Et nous sommes des martyrs de Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Être un témoin, c'est être un martyr. Mais il ne s'agit pas de se mettre une ceinture explosive et d'aller à la gare de Bourg-la-Reine et attendre le prochain train. Non. Mais en marchant fidèlement avec Christ, vous pouvez mourir. Et on le voit avec l'expérience des chrétiens persécutés. Vous pouvez y passer. Mais j'ai envie de vous encourager, frères et sœurs. Nous avons notre puissant héros, notre roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a enduré de la part des pécheurs une opposition ténébreuse contre sa personne, afin qu'on ne puisse pas se décourager quand même on serait lassé. Il est toujours avec nous, il a souffert la croix, il a méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu, il intercède pour nous. Mais des fois, Mon cœur se brise quand des fois j'entends des amis chrétiens qui me disent ouais mais voilà faut faire quand même attention, Dieu est là avec nous, mais attention, Satan est là aussi, il est puissant. Mais bien sûr que je le sais, oui, il est puissant, il pourrait m'écraser littéralement, mais il n'a rien en moi. Lui, il est en moi, Jésus, et l'ennemi, il n'a rien en moi. Bien sûr, il pourrait me détruire. Mais le sang royal du Fils de Dieu coule en moi. Je sais où je vais. Et Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne sauraient résister. Aucun ennemi ne peut détruire l'église. Mais ça ne veut pas dire que l'ennemi ne peut pas la blesser. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, et le serpent lui mordra le talon. L'ennemi peut nous blesser, on le voit dans l'expérience des chrétiens persécutés, mais je voudrais juste lire ce texte qui est une préfiguration de la chute de Lucifer, que l'on peut trouver dans Ésaïe 14, la chute du roi de Babylone, la chute du prince de Tyr dans Ézéchiel 28, et c'est ce que je vais lire. Ézéchiel 28, juste à partir du verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, toutes ces pierres précieuses que l'on retrouvait sur le pectoral du souverain sacrificateur. Il était doté, voilà, c'est des images, mais il était doté de tous ses talents, de tous ses dents. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Satan a été créé. Il était Lucifer, il est devenu Satan, l'adversaire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes fautes. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, autrement dit ta sainteté. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. Voilà ce que Dieu dit aujourd'hui de l'ennemi. Il n'est rien. Et notre Seigneur Jésus, en Luc 11, je crois, verset 19, si je me rappelle bien, il dit, eh bien, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu appelle dans Ézéchiel l'ennemi rien, et Jésus dit rien, absolument rien, donc il ne peut nous nuire. Parce que nous avons été introduits dans les palais d'ivoire avec Jésus-Christ. Introduit dans ce royaume de lumière avec lui. Et donc, il ne peut nous nuire. Et la question que je me pose des fois, mais en fait, qui est Jésus pour nous? On le célèbre, on chante la lumière du monde, mais qui est-il? Il est le personnage central de ce livre de Dieu que nous avons. Il est l'objet de l'adoration des saints, des anges. Il est la pleine révélation de Dieu, il est l'image du Dieu invisible, il est au cœur de notre civilisation, on parle de lui avant, on parle de Jésus-Christ, on parle des annales du temps avant ou après Jésus-Christ, il est notre modèle parfait, alléluia, même dans la souffrance. Et pourtant notre Seigneur nous invite à porter notre croix, et porter notre croix n'est pas toujours un exercice facile. Il ne s'agit pas de porter le médaillon que l'on peut avoir là, c'est porter cette chose lourde et épaisse qui peut littéralement nous écraser. En même temps, c'est le seul chemin vers la résurrection et la gloire. Amen. Hayden Wilson Tozer, qui a été un homme influent pour l'Église au XXe siècle, qui a dit à un moment donné, « La croix est rude et elle est un objet de mort » dans son livre « La recherche de Dieu ». Mais elle est efficace. Elle ne retient pas à toujours sa victime pendue au bois. Il vint un moment où son œuvre est accomplie et où la victime qui souffre meurt, enfin. Mais après cela, vient la résurrection, la gloire et la vie, et la souffrance est oubliée. Amen. Porter notre croix peut s'avérer un exercice vraiment, vraiment difficile. Mais c'est le seul chemin. Et Christ a emprunté ce chemin-là. Et il suffit au serviteur d'être semblable à son maître. Des souffrances, il y en a. Mais Christ est avec nous et il nous a donné des ressources pour tenir. Et peut-être que je peux vous poser la question, quelles sont, eh bien, voilà, ces ressources que nous avons, que le Seigneur nous a données, eh bien, pour tenir ferme, quand bien même on peut être des fois découragé. Vous en connaissez une comme ça, voilà, comme ça au pif, question pour un super champion.
Sa présence.
Alléluia, ouais. Sa présence, la prière, en effet. La foi, en effet, tout à fait. Plein de ressources comme ça que le Seigneur nous a données, le Saint-Esprit. Hein? Et je voudrais, eh bien, voilà, énumérer quelques-unes. Alors, vous connaissez ce fabuleux armure que l'on retrouve dans Éphésiens 6. Vous vous souvenez? Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Et c'est très réel, même si, eh bien, humainement, on peut être littéralement écrasé, mais on reste maître de la place spirituelle. Quelques armes défensives. Voilà, et Paul en cite, hein. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Vous vous souvenez de la quatrième arme?
La justice.
J'entends un bruit, mais je ne sais pas qui. Je sais pas.
L'épée.
Il y a l'épée.
Le
bouclier de la foi, en effet, cinquième arme, quelqu'un l'a dit, le casque du salut. Et vous avez remarqué cette armure qui était, eh bien, cette armure que la légion romaine, eh bien, portait justement en allant au combat. Et Paul, eh bien, reprend, eh bien, toutes ces armes pour parler de réalité spirituelle. Des armes offensives, eh bien, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et a le pouvoir de la prière. Alléluia, devant lequel, eh bien, l'ennemi peut reculer. Dieu nous a donné des ressources pour tenir. La parole de Dieu qui est, eh bien, qui a traversé les siècles, qui a été, eh bien, combattue pendant des siècles, qui a traversé les âges. Aujourd'hui, la Bible reste le livre le plus vendu au monde, peut-être aussi le plus lu, il faut que je me fasse une mise à jour, mais le plus vendu. Pourtant, c'est un livre qui a défié toute raison, pour lequel, eh bien, des apôtres ont été tués, des prophètes ont été mis à mort, pour qu'il soit là, posé entre nos mains. Mais quel est notre rapport avec la parole de Dieu? Voilà, là, je voudrais un peu me déconnecter d'eux, mais tirer leur expérience pour nous parler à nous. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puisse mes voies, mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point ce jour-là à la vue de tous tes commandements. Dieu nous a donné un beau cadeau aussi, une arme redoutable qui est sa parole. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. En toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et j'aime, voilà, j'aime présenter aussi on a une présentation qui s'appelle le livre dangereux. Je te l'ai envoyé, ça, Christelle? Non, je ne te l'ai pas envoyé. Et on aime poser la question. Est-ce que, voilà, je vous pose la question. Est-ce que la Bible est un livre dangereux? Philippe semble être d'accord. Pourquoi? Non, moi je pense que si, c'est une bonne réponse, il me semble. Hein. Alors peut-être pas dangereux pour nous, mais premièrement dangereux pour Satan. Vous possédez la parole de Dieu devant laquelle il est obligé de fuir. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dieu nous a donné sa parole qui a autorité sur toute chose, qui apporte la vie. Elle est un danger pour les chefs militaires. Pour les lobbies qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui sont hostiles à l'évangile de Dieu, à l'église. C'est un livre dangereux. Permettez-moi juste de vous montrer ce témoignage. Ensuite, je vais avancer parce que je crois que le temps, j'en aurai plus.
En Érythrée, des centaines de chrétiens sont actuellement enfermés dans des conteneurs en métal, comme celui-ci. Qu'ont-ils donc fait de si grave pour suffoquer dans ces caisses où les températures sont extrêmes? Détenus sans jugement, torturés par la faim et la soif, leur crime est d'être chrétiens et d'avoir fait ce que font les chrétiens, prier, se réunir et lire la Bible. Mon frère Gédéon comprend bien tout cela. Isaac était un tueur redoutable, habile et courageux. Le commandant disait qu'il ne l'échangerait pas contre 10 autres soldats. C'était aussi un buveur invétéré et un coureur de femmes. Il faisait la guerre, survivant de son mieux. Il manquait de respect envers ses officiers, mais il le laissait faire car il voulait qu'il combatte. Dans son unité, sur 500 hommes, 450 sont morts lors d'une seule bataille. La plupart des survivants étaient grièvement blessés. Isaac en était sorti indemne. Deux soldats chrétiens l'ont alors interpellé. Ce n'est pas pour rien que tu as été épargné. Dieu a sûrement un plan pour toi, sinon tu serais mort toi aussi. Isaac ouvrit son cœur et décida de suivre Jésus. Du jour au lendemain, il abandonna ses mauvaises habitudes, respecta ses supérieurs et tout le monde vit qu'il avait changé. Aussi la différence. Il était furieux et dit à Isaac, tu as perdu ton instinct de tueur. J'aimais mieux te voir indiscipliné et stupide que chrétien. Tu aurais pu devenir un grand soldat. Isaac reçut l'ordre de rester à l'écart des chrétiens et de ne plus lire la Bible.
Alors pardon, il y aura trois scènes un peu choquantes, je suis désolé, j'aurais dû vous prévenir.
Quand les chrétiens lui donnèrent une Bible, ils lui dirent, ne te contente pas de la lire, mange les paroles de Dieu, assimile-les profondément. Isaac se cachait pour lire sa Bible. Plusieurs jours en plein soleil, puis on lui a demandé s'il allait enfin arrêter de lire sa Bible. Il a répondu, non, je ne peux pas. Les tortures ont redoublé. On l'a attaché dans la position de l'hélicoptère et laissé ainsi pendant 7 jours. S'il était prêt à renoncer, Isaac refusa. Le commandant le jeta alors dans un conteneur avec d'autres prisonniers. Ils étaient si serrés à l'intérieur qu'ils devaient dormir à tour de rôle. Le jour, la chaleur était torride. La nuit, il faisait si froid que tout le monde crevait.
vacances et une promotion militaire. Il voulait qu'il s'engage à ne plus lire la Bible, ne plus parler aux chrétiens, ne plus parler de Jésus et ne plus prier. Il n'a jamais connu un jour sans persécution. Isaac est devenu une légende vivante. Si les nouveaux croyants venaient lui parler de sa Bible, il leur dirait « Mangez ce livre ». Il vous créera des problèmes, mais cela en vaut la peine.
Voilà une des réalités aussi très défiantes que connaissent nos frères et sœurs. Pardon, j'aurais dû vous prévenir. Si vous m'auriez dit non, j'aurais passé. Mais voilà, simplement depuis qu'il a commencé à vivre la parole de Dieu, tout a été vu de l'extérieur. Cette réalité intérieure était visible à l'extérieur et la persécution a commencé du jour au lendemain. Par la grâce de Dieu, Isaac est en sécurité dans un pays d'Europe. Pour des raisons de sécurité, je ne vous dirai pas où, mais il a été libéré miraculeusement. Ce beau cadeau que Dieu nous a donné pour tenir, et en même temps il peut nous causer des ennuis. Quelqu'un a évoqué la prière. La prière, Élie était un homme de même nature que nous, et pourtant, par la prière, il a quand même su fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas. Et par la prière, il a su ouvrir le ciel afin que le ciel donne de la pluie. Et c'est un beau cadeau que Dieu nous a donné aussi, cette communion profonde, douce, parler avec Dieu, échanger avec lui. Une autre arme que Dieu nous a donnée, j'avais une vidéo mais je ne vais pas la montrer, le Saint-Esprit. Alléluia, l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui nous parle de tout ce qui concerne le Père, qui nous aide à marcher dans la vérité, qui nous accorde la puissance de la grâce de Dieu pour rester intègre et fidèle. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc des conflits, des tempêtes, il y en a. Mais nous avons notre puissant allié, notre Seigneur qui est avec nous, qui nous a donné des ressources pour tenir. Maintenant, ce qui nous rend forts, et je termine avec ça, des choses qui nous rendent fortes, vous en connaissez sans doute. Je parle des promesses de Dieu qui nous aident à tenir ferme. Quand bien même, ce serait tellement difficile. Et les chrétiens persécutés, nous donnent cet exemple. Ne crains pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Et c'est un passage que nous connaissons tous. Mais comment nous le vivons dans l'expérience humaine lorsque la tempête souffle? Je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Qui nous séparera de l'amour de Christ, la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Pourtant, ce sont des choses qui peuvent nous faire perdre les pédales. Peut-être faisons l'expérience de ne pas manger pendant 10 jours, et qu'on vienne chanter Alléluia au Seigneur. Peut-être qu'on pourrait courir en se bouchant les oreilles. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi ? Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra jamais, jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Une chose aussi que je voudrais aborder, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu est amour et Dieu nous apprend à vivre comme lui et à faire ce qu'il aime. À faire ce qu'il fait, à haïr ce qu'il déteste et à ne pas faire ce qui ne nous est pas recommandé de faire. Et aimer Dieu qui est amour, Eh bien, ce doit être notre style de vie. Et c'est important de l'exprimer. Et aimer Dieu, voilà le plus grand commandement, qui est accompagné d'aimer son prochain comme soi-même. Et son prochain, c'est sa famille, c'est ses amis, mais c'est aussi son ennemi. Et en nous souvenant qu'il y a un conflit derrière, ce qui fait que par la grâce de Dieu, eh bien, on peut aimer eh bien, quelqu'un de Boko Haram, quand bien même ce serait logiquement absurde. Et voilà ce que Jésus entrevoit. Voilà ce que Jésus voit et ce qu'il nous faut entrevoir aussi. Une autre chose, c'est le pardon. Le pardon. Celui qui ne pardonne pas, eh bien, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. T'as envie de dire, mais comment tu veux que je fasse? J'ai des traumas, Jésus. Il est celui qui guérit et qui nous aide justement à aller de l'avant. Je vous promets, le temps s'est arrêté. Je vous montre juste cette dernière vidéo sur la puissance du pardon et je m'arrête. Vous permettez?
Oui.
The story you're about to hear is true. Only the name doesn't change.
Benjamin taught me forgiveness by how he would live. And within a very short while, it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first to say, and I'm sorry, I did this. Really, really sorry about it. And we had a wonderful relationship, really, really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic, when they're sick, he would make sure that he has a chat to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. They would still talk about, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine. When they got to this homestead, they met the lady of the house and they greeted her and they requested to have time with the man of the house so that they can, you know, share the gospel. As she walked out, understand, just a little distance, started to scream, thief. So people just emerged. We don't know from where, but people just emerged. They were holding stones, some holding matches, some, you know, with sticks, and they just descended on them, and they just started beating them. He was just telling them, we have a Bible, we've come here, you can see, we are not thieves, we have our own car, we just come to pray with you, we just come to share with you the word of God. And these people totally refused to listen. And they just left them, hit them with stones, and slashed them with matches until they were down. And before they were dead, they took the petrol. I was just left speechless. I was like, oh, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God and I was like, God, he prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this. And if it was not what you had purposed, what you wanted, you only had to speak. I mean, it got to that point that I was sharing with God that. But why? Why did you allow this? What happened? What went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children, because they loved their dad. They banged doors, they broke cutlery, they, and I just told people, just let them. They let them just feel what they are feeling. And they felt so angry and they said, no way. They can't do this to them and just get scot-free. night when we were praying. He said, Mom, come and pray. Each and every person was involved. One who lifted a stone, one who lifted a matchet, the one who lifted a stick, the one who even brought petrol, the one who even lit that must say. It's not, there's no two ways about it. I remember that was the second day when we were praying for the people who were behind all that. And I said, this is so like Benjamin himself, to quickly forgive and move on, not to hold on to things because somebody has angered you, somebody has hurt you. Forgive, let go, and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn. Beautiful. Then there was this sun. That sun was bright but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around there were flowers. Beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air. Just a beautiful scent. And then there was the music. There was a tinkling music. It was, you know, like bells tinkling in the air. And yeah, I was seated. And I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, you know, something like this. And then a voice spoke to me. And he said, it was my doing. And I am well pleased. And I was smiling. And that moment, I didn't feel that pain. It was gone. And I realized that it was over. God had dealt with my pain, dealt with my tears, and dealt with me. I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people. I'm just really asking God every time, God, can you do something? The glorious lesson is that Christ was persecuted. And so we will also go through persecution. And when you go through persecution, it's not because God hates us. No. He still loves us. But one day we're going to meet, and I'm going to tell them all the things. I forgive you. I love my husband. I can never imagine how much I miss him every single day. But I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death.
Voilà, sans commenter cette vidéo, voilà, tous ceux qui ont, eh bien, qui challenge, qui bataillent avec le pardon, sachez que ce pouvoir moral et spirituel, c'est Dieu qui peut l'accorder pour pouvoir pardonner et être libéré. C'est Dieu qui peut l'accorder. Sans quoi, eh bien, il ne nous pardonnera pas non plus. Et voilà, je ne commente pas ça plus. J'arrive à la fin. Après tout ce que l'on a vécu, ma question, eh bien, c'est une question de réflexion. C'est à quoi vous ressemblez, vous, dans l'épreuve, quand la tempête souffle dans vos vies? Est-ce que vous ressemblez plutôt à une carotte que l'on plonge dans de l'eau bouillante et si on la laisse éternellement, ben, voilà, c'est bien pour une purée de carotte? Est-ce que vous ressemblez plutôt à, eh bien, à un thé, je veux dire, ou la verveine, hein, si on laisse... voilà, bouillir sans cesse, bah, ça s'évapore. Vous ressemblez à un œuf qui, lorsque vous le plongez dans de l'eau chaude, eh bien, il durcit. Des épreuves, des tempêtes, eh bien, on en connaîtra. Jésus a dit que c'est impossible que ça n'arrive pas. On en connaîtra. Il l'a connu lui-même. Nos frères et sœurs nous montrent un exemple de résilience profonde, une puissance dans l'amour et le pardon des ennemis. Une foi remarquable. Mais aussi, des fois, eh bien, il s'y passe. pour que l'on puisse tirer des leçons et que l'on soit comme cet œuf qui est bien dans l'épreuve durcie. Ou même, oui, en fait, comme, vous savez, un sachet de thé, là, vous plongez, à un moment donné, eh bien, quand ça boue, eh bien, ça diffuse simplement toute sa substance intérieure, elle se propage, toute la vie du thé ou de la tisane, voilà, ça s'évapore, et ça se répand, et après, voilà, on a un bon parfum. Voilà, l'attitude à adopter devant la souffrance pour tenir ferme, eh bien, de prendre conscience de notre identité en Christ. L'ennemi ne peut pas nous détruire, même s'il peut nous faire mal. Nous sommes en lui, et il est plus que vainqueur. Nous souvenir, eh bien, que nous sommes faillibles. Qui connaît ses fautes involontaires, dit David. Pardonne-moi ce qui m'est caché. Revenir à la croix. Se consacrer à Dieu. Vivre dans la puissance de la résurrection par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Adopter une attitude biblique face à la persécution. Job, vous savez, toute l'adversité qu'il a connue. Mais à un moment donné, eh bien, il est écrit de lui qu'il ne pécha en rien par les propos de sa bouche. Et il s'en remettait à Dieu puisqu'il a dit à un moment donné, eh bien, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui se lèvera le dernier. Et par-delà tout ça, eh bien, persévérez dans l'épreuve. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans la tribulation. Et persévérez dans la prière. Amen.
Amen.
Je vous remercie justement pour votre patience. Et voilà, après avoir dit tout ça, on peut faire un tour à la plage. Il fait quand même chaud. Vous voyez, moi j'ai ça là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Amen.